Le journal Hugo Lanoë. Bonjour Hugo.
Bonjour Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Une de plus, une permanence La République En Marche vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Des tags et des slogans parmi lesquels Steve ou On est encore là, couleur jaune fluo. La députée varoise Valérie Gomez-Bassac porte plainte, vous l'entendrez dans un instant. En parallèle, après la mort lundi et les obsèques hier du maire de Signes, un autre drame a été évité de peu dans le Puy-de-Dôme. Le maire du petit village de Saint-Millon a été agressé par l'un de ses administrés, Jean-Pierre Muselier nous racontera ce qu'il s'est passé. 10e week-end de mobilisation à Hong Kong, aujourd'hui et demain, plusieurs rassemblements prévus, tous interdits. Le mouvement ne s'essouffle pas, il se durcit même. Témoignage d'un activiste radicalisé à suivre dans ce journal. L'inquiétude des parents dans le 5e arrondissement de Paris suite à l'incendie de Notre-Dame et de la pollution au plomb. Enfin, on se quitte en musique avec la 20e édition du Festival d'Opéra en plein air de Sensé dans la Vienne.
Et dans 20 minutes, la première invitée de la matinale, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Elle accueille les enfants migrants et les enfants de migrants. Les bateaux des ONG sillonnent la Méditerranée pour sauver les migrants en mer. Mais qu'est-ce qu'il se passe après pour ces plus jeunes? Comment les prend-on en charge une fois qu'ils sont sauvés du danger? On lui posera la question.
France Inter.
On ne compte plus le nombre de permanences de députés La République En Marche vandalisées.
Une de plus, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Roquebrussane, celle de la députée de la 6e circonscription du Var. Une bien mauvaise surprise pour Valérie Gomez-Bassac, alors qu'elle revenait des obsèques de Jean-Mathieu Michel à Signes, le maire varois tué a priori accidentellement au début de la semaine. Les inscriptions sur les murs de ses locaux évoquent la disparition de Steve Maya Canisso, les gilets jaunes, les violences policières ou encore la situation des agriculteurs. Valérie Gomez-Bassac a porté plainte.
Je suis en colère parce qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer que la violence. Ma porte a toujours été ouverte, que ce soit aux gilets jaunes, que ce soit aux élus, que ce soit aux viticulteurs, aux agriculteurs, etc. Donc je ne comprends pas cet acte. Je suis aussi perplexe parce que les agriculteurs sont également mentionnés et je suis quasi convaincue que ce ne sont pas eux. Ça tombe aussi à un moment où, depuis quelques jours, je dénonce ce qui se fait au niveau des déchets dans le Var, les décharges sauvages, les décharges illégales. Il y a une chronologie qui m'inquiète un peu. Maintenant, encore une fois, j'ai porté plainte. Une enquête est en cours, nous verrons bien.
Et au total, plus d'une quinzaine de permanences ont été vandalisées depuis la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Quelques jours après le décès du maire de Signes dans le Var, quelques heures avant les obsèques très émouvantes de Jean-Mathieu Michel, un autre drame a été évité de peu hier matin dans le Puy-de-Dôme. Le maire du petit village de Saint-Millon, 450 habitants dans le nord du département, a été agressé par l'un de ses administrés. Avec deux de ses adjoints, Jean-Pierre Muselier s'est rendu chez une famille pour régler un problème de déchets. L'élu raconte la suite.
Je frappe à la porte, personne ne me répond. Je vais un petit peu plus loin sur le volet, je frappe au volet et je dis « Madame Untel, pourriez-vous m'ouvrir ?» Jean-Pierre Muselier, maire de Saint-Millon. Et je reviens devant la porte et à ce moment-là, le fils de cette dame, avec un couteau de cuisine, me dit « Je vais te tuer » et donc il me frappe. Alors, il ne m'atteint pas et je pars sur un côté. Un de mes conseillers municipaux qui était là a eu une toute petite blessure. J'ai quasiment un coup de couteau qui m'arrivait dans le cœur. C'est très choquant. Ce n'est pas un acte anodin. Mourir sur une place comme ça, j'en vois pas l'intérêt. Mais ça ne remet pas en cause mes convictions et surtout ma volonté de continuer à être maire.
Et l'agresseur a été interpellé puis hospitalisé. Les livreurs de la plateforme Deliveroo en grève ce week-end à Grenoble. Ils se retrouvent toute la journée place Victor Hugo à partir de 11h30. Aucune commande ne sera acceptée. Tous dénoncent la baisse graduelle du prix des courses et la dégradation de leurs conditions de travail. Arthur Badin tente d'organiser le mouvement grenoblois. Marion Gauthier l'a rencontré.
Pas facile de rassembler une profession quand elle est constituée d'auto-entrepreneurs. Pourtant, pour faire plier le géant Deliveroo, Arthur Badin veut croire à une forte mobilisation. Mais ce n'est pas gagné.
Aujourd'hui, vous avez des livreurs que je sais ne viendront pas à la grève, malgré qu'ils soient pour. Parce qu'ils n'ont qu'une seule peur, c'est que du jour au lendemain, leur compte soit supprimé.
C'est la même peur qui fait accepter un système de sélection des livreurs. L'application Deliveroo privilégie les plus rapides, leur laisse notamment plus de choix dans leurs horaires de travail et les pousse à bout.
Un livreur qui est connu pour sa qualité de travail et sa vitesse parcourait les lignes de tram de Grenoble et il a eu un accident plutôt grave, c'est-à-dire qu'il est tombé dans les pommes, il s'est réveillé chez les pompiers. Et là encore un petit coup de foutage de gueule de Deliveroo, c'est-à-dire qu'ils nous ont promis qu'il y aurait une assurance. L'assurance a osé dire au livreur que comme il n'avait pas ramené la commande au restaurateur, il refusait de l'assurer.
de 5 à 2,50 € la course, la prime par temps de pluie supprimée. Le métier en devient dégradant, estime Arthur Badin. Mais les livreurs pourraient bien trouver du soutien du côté des restaurateurs qui grognent aussi contre la plateforme qui prélève 35% sur leurs commandes.
Marion Gauthier sur France Inter.
Autre mobilisation à l'autre bout du globe, cette fois Hong Kong. Les week-ends s'enchaînent et se ressemblent.
Et depuis 2 mois, les militants anti-gouvernementaux sont dans la rue. Un seul mot d'ordre, plus de démocratie et moins de contrôle de la part de la Chine continentale. 10e week-end de rassemblement donc aujourd'hui et demain, et le mouvement ne semble pas s'essouffler, loin de là. Il se durcit, même à l'image de ce Hongkongais, au début pacifiste, devenu par la suite activiste. Il est aujourd'hui prêt à en découdre avec les autorités, Angélique Forger.
Derrière ses traits d'adolescent et son air d'enfant sage, Tony Chung, 18 ans, incarne l'un des visages de la révolte hongkongaise, celui de la radicalisation. Depuis plusieurs semaines, il est en première ligne lors des affrontements avec les forces de l'ordre.
Avant ce mouvement social, le week-end, je ne faisais pas grand-chose. Je jouais aux jeux vidéo, je dormais et maintenant, parfois, j'y reste 10 heures d'affilée sans manger.
Son équipement est toujours le même, casque, masque pour se protéger des gaz lacrymogènes et bien sûr, t-shirt et pantalon noir, le code couleur des manifestants. La menace d'une arrestation n'entame pas ses convictions.
Quand les manifestations ont commencé, nous étions très pacifiques, calmes et non violents. Mais le gouvernement ne nous a pas écoutés, même lorsque nous avons été 2 millions dans la rue. Alors nous devons devenir plus agressifs pour obliger les autorités à nous entendre.
Même la possibilité d'une intervention de l'armée chinoise ne lui fait pas peur.
Si l'armée chinoise devait intervenir à Hong Kong, je suis sûr qu'ils n'enverraient pas les chars comme cela s'est passé à Tiananmen. Moi, je pense qu'ils enverront surtout des hommes qui rejoindront les forces de police et qui se montreront plus brutaux.
À Hong Kong, tous les manifestants le savent, participer à des émeutes est un délit passible de 10 ans de prison. Hong Kong, Angélique Forget, France Inter.
Le chantier de Notre-Dame de Paris va reprendre le 19 août, annonce hier après-midi de la préfecture d'Île-de-France. Les travaux sont à l'arrêt depuis fin juillet en raison d'une pollution au plomb et d'une protection jugée insuffisante. Près de 4 mois après l'incendie, l'inquiétude est vive chez les parents. À l'instar d'Anne Souleliac, elle a 3 enfants, elle habite non loin du 5e arrondissement de Paris. Elle s'inquiète pour sa fille.
Ce qui m'a alertée, en fait, c'est que je me suis aperçue que, contrairement à ce que je pensais, l'assistante maternelle n'avait reçu absolument aucune recommandation de nettoyage à mettre en œuvre de la part de la crèche. Et ça, même 1 mois après l'incendie.
Quelles sont les conséquences, du coup ?
Il faut éviter à tout prix qu'elle puisse continuer à s'exposer au plomb. Donc, être très vigilant, ça veut dire, moi aussi, faire très attention... quand on rentre à la maison, d'enlever surtout les chaussures, de pas marcher dans l'appartement avec des chaussures qui potentiellement peuvent porter des poussières de plomb, être vigilant. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que j'habite dans ce quartier, j'aimerais être sûre que quand je l'emmène au square, eh bien, je suis certaine qu'elle ne risque pas d'être à nouveau exposée à du plomb.
Un propos recueilli par Touk Nirilanto.
Et direction à présent le Poitou pour la 20e édition du Festival d'Opéra en plein air de Sancey.
Aïda de Verdi fera l'ouverture dans le célèbre théâtre antique. Les chiffres donnent le tournis, Laetitia. 10 000 spectateurs, 80 choristes, 75 musiciens, 10 danseurs, un festival qui doit beaucoup à ses 250 bénévoles. Jules Brelaz a rencontré les doyens de ces bénévoles, un couple devenu fan d'opéra un peu par la force des choses.
L'amour est un papa.
Avec une carrure de maçon à la retraite et la voix d'un baryton enrhumé, Jean-Claude Combes n'a pas vraiment, comme le dit sa femme, le look du chanteur lyrique.
Ah non, pas du tout.
D'ailleurs, côté musique, pour Jean-Claude, c'était plutôt ça. Plus Patrick Sébastien que Carmen.
Plutôt les sardines que la lyrique.
Et pourtant, aujourd'hui, le couple qui vit à 2 pas du site gallo-romain de Sancey a des partitions plein la tête.
Rigoletto, Carmen, la Traviata.
Nabucco, il y a eu Tosca, il y a eu Madame Butterfly. L'autre soir, on entendait le violon et la diva chanter comme si on était avec elle. C'était très beau.
Depuis 20 ans, à force de regarder l'opéra, on y prend goût.
Depuis 2 décennies, Jean-Claude monte et démonte le décor chaque été pendant qu'Annick s'occupe d'une des buvettes.
Au début, c'était compliqué parce qu'on travaillait avec presque rien. On a monté un opéra, comme dit l'autre, avec des bouts de ficelle.
Mais maintenant, c'est la première année, je crois, qu'il y a des affiches dans le métro parisien. Ça fait connaître sans cesse. Et Aïda, cette année, le 20e, je pense que ça va être grandiose.
Grandiose grâce encore une fois à Annick, Jean-Claude et aux autres bénévoles qui n'ont peut-être pas la voix, mais qui ont un cœur gros comme ça.
Si tu m'aimes, prends garde à toi, prends garde à toi.
On n'est pas prêt d'être opéré par le metteur en scène.
Sujet signé, rien Jules Brelaz. Du football, après plusieurs semaines de trêve estivale, la Ligue 1 a repris ses droits hier soir pour le match d'ouverture. Lyon a écrasé Monaco au stade Louis II 3-0 suite de cette première journée de Ligue 1, avec 6 matchs au programme, dont OM Reims à 17h.
Merci Hugo Lanoë, on peut apprendre des nouvelles du temps avec Jean-Pierre Hameau. Jean-Pierre, les températures, vous dites qu'elles vont baisser cet après-midi.
Oui, Laetitia, surtout dans le sud-ouest et le nord-est du pays. N'attendez pas plus de 23 degrés du côté de La Rochelle, prévoyez 24 à Tarbes et Biarritz, 26 à Cognac et Bordeaux, mais aussi à Mulhouse et Besançon. Comptez 27 dans la capitale, ça sera quand même plus chaud près de la Méditerranée, avec 30 degrés à Toulon, 31 à Bastia, 32 à Perpignan. La maximale de 35 degrés sera observée à Nîmes. Cette journée sera quand même plus calme, sous un ciel alternant les éclaircies des passages nuageux ce matin, avec encore quelques ondées par endroits et plutôt dans le nord-ouest. Les éclaircies vont s'élargir au fil des heures pour laisser une belle place au soleil, excepté dans l'extrême sud-ouest du pays où les nuages auront du mal à se dissiper. Et puis le soleil va briller toute la journée en Corse, autour du golfe du Lion et de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur. Et attention au vent de sud-ouest assez fort le long des côtes de la Manche. Les rafales seront comprises entre 70 et 90 km/h. On attend 100 km/h du côté des caps Blanc-Nez et Grinet.